Crío Cuervos.
¡Crío Cuervos!
¡Crío Cuervos!
Cuervos, parce que les corbeaux qui se déploient dans nos têtes échappent à la réalité de la cage dans laquelle on évolue. Crio Cuervos se veut un espace pour rendre visible ce que l'on cache dans les institutions du pouvoir et au plus profond de nous, ce qui nous fait peur et nous fait obéir, un témoignage de nos tristesses, de nos joies, de nos défaites et de nos victoires, une expression de la douleur qui nous fait sentir vivants ou qui nous crève, un peu de la pétarade euphorique qui nous fait exister. Un lieu pour détruire tout ce béton et ces barbelés qui enserrent nos têtes. Un temps pour échanger des savoirs et des expériences, pour se réarmer et vivre selon nos désirs. Un temps pour parler comme on l'entend, en se contrefoutant des codes policés de l'expression raisonnable. Un espace où les fêlés du casque ont libre antenne, un lien vers la révolte. Crio Cuervos prétend être un outil de résistance au pouvoir psy. Un élan vers des pratiques collectives dans un processus de libération de la psychiatrie. Nuestra pasión no es diagnosticable. Notre passion n'est pas diagnosticable.
Et au sommaire, aujourd'hui, on a choisi de prendre un seul thème global qui va nous empêcher de faire des brèves, forcément, puisqu'il y a trop de choses à dire. Et donc, le sommaire et le sujet, c'est l'autisme. On va aborder différents aspects. On a fait des choix complètement subjectifs pour orienter le sujet. Dans un premier temps, il y aura la lecture d'un texte, d'extrait du roman autobiographique, on va dire, de Donna Williams, qui est intitulé « Si on me touche, je n'existe plus ». Après ça, on aura la lecture et les commentaires au sujet d'un article sur le « Neurodiversity Movement ». Ou comment le politiquement correct appliqué à la lutte permet de voir la diversité neuronale comme revendication positive. Ensuite, on abordera l'autisme sous l'angle d'une approche expérimentale et intuitive, on pourrait dire, par Fernand Deligny, en l'occurrence, dans les années 50-60. Voilà. Et pour finir, je pense que c'est un choix de le caser ça à la fin. On parlera de l'autisme et l'année 2012, autrement dit toute la série de d'épiphénomènes mais qui cachent des tendances lourdes entre grandes causes nationales, recommandations de l'HAS, les procès vis-à-vis du packing, etc. Il y a matière à dire, vous l'entendrez.
Mais ouais, alors on va commencer avec les témoignages de Donna Williams, avec son bouquin qui s'appelle Si on me touche, je n'existe plus. Et voilà, en anglais, c'est Nobody Nowhere. C'est un peu marrant comment les Français vous traduisent les trucs, mais, mais voilà. Alors voilà, la première chose que je voulais dire, c'est que c'est les premières approches que j'ai eues avec l'autisme. Alors je ne connais pas du tout les sujets, alors là, je sais pas trop si ce bouquin il est bien ou pas, pour vous dire la vérité. À moi, ça m'a parlé. C'est une première approche d'une personne qui se considère autiste. Alors voilà, je voudrais bien vous faire partager quelques lignes qu'elle a écrites dans ce bouquin. Et voilà, alors voilà, ça fait quelques temps, il y a une personne qui m'a dit que quand j'ai lu, les gens, ils me comprennent pas très bien. Alors voilà, ils m'ont proposé de respirer un peu et de les lire plus tranquillement. Alors voilà, je respire. Voilà, ça sent le souffle. Bon, je vais essayer. Allez, on y va. Et c'est dans le premier chapitre qui s'appelle « Dans les étoiles ». Je me souviens de mon premier rêve. Du moins, du premier rêve que ma mémoire a enregistré. Je me déplaçais dans du blanc, au sein d'un espace vide. Juste du blanc, avec néanmoins des flacons de couleurs lumineuses qui m'entouraient partout. J'ai passé au travers, il m'est traversé. C'était le genre de choses qui me faisaient rire. C'est un rêve bien avant tous les autres. Avant les rêves d'excréments, les rêves des gens ou des monstres. Et certainement avant que j'aie pu remarquer la différence entre les trois. J'ai devais avoir moins de 300. Mais ces rêves témoignent de la nature de l'univers que c'était les miens à cette époque. J'y percevais imperturbablement les mêmes rêves dès que j'étais réveillé. J'ai regardé en face la lumière qui venait de la fenêtre proche de mon petit lit. Et je me frottais les yeux frénétiquement. Les voilà, ils arrivent. C'est du bébé des couleurs vives qui traversait l'espace blanc. Arrête ! Ça, c'était l'intro. Les bruits incompréhensibles qui venaient nous déranger. Qu'importe, j'ai continué joyeusement sur ma lancée. La gifle tombait. J'avais découvert que l'air était plein de petites taches. Si vous regardez les néants, vous trouviez des taches. Des gens passaient par là et obstruisaient la vue enchanteuse que j'ai... Je répète. Des gens passaient par là et obstruisaient la vue enchanteuse que j'avais du néant. J'ai regardé au-delà des gens. Ils dérangeaient. J'ai passé autre et concentré sur les désirs de mes parts dans les tâches, en regardant au travers des intrus avec une expression sereine, épaissée par la sensation de me laisser absorber tout entière dans les tâches. La gifle tombait. J'ai fait l'apprentissage du monde. À la longue, j'ai fini par apprendre à me fondre dans tout ce qui me fascinait. Les motifs du papier peint ou des tapis, un bruit quelqu'un, ou mieux encore, les bruits sûrs et répétitifs que j'obtenais en me tapotant les mentons. Dès lors, les gens cesseront d'être un problème. Leurs paroles s'évanouiront dans des marmottements indistincts et leur voix se réduira à un catalogue de bruits. Je pouvais regarder à travers eux jusqu'à n'être plus là, et même plus tard avoir le sentiment de m'être fondu dans leur être. Ce n'était pas tant les paroles des gens qui me posaient problème que leur attente de réponse de ma part. Cela aurait été exigé de comprendre ce qu'ils disaient. Mais j'éprouvais un plaisir trop intense à chercher à me dissoudre dans l'espace pour consentir à rétrograder vers une pauvre chose à deux dimensions comme la compréhension verbale. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Faisait la voix. Comme je savais que j'étais censé répondre pour qu'on arrête à me déranger, j'ai ménagé un compromis et j'ai répété : qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ça m'adressait à quelqu'un en particulier. Ne répète pas tout ce que je t'ai dit. T'as censé la voix. C'est à nouveau un besoin de répondre, j'y obtiendrai. Ne répète pas tout ce que je t'ai dit. La gifle tombait. Je n'avais aucune idée de ce qu'on attendait de moi. Pendant les trois premières années et demie de ma vie, ce fut là tout mon langage, agrément d'intonations et d'inflexions vocales de ce dont je viens à penser qu'il faisait partie du monde. Le monde se montrait impatient, important, dur et implacable. J'ai appris à les répondre, à les avenant, avec des pleurs et des hurlements, ou par l'indifférence et la fuite. Alors voilà, ça c'est les premiers textes que je voulais vous lire. Et ouais, pour moi c'est assez parlant parce que c'est... Voilà, il explique un petit peu comment c'est tout cet univers d'une personne qu'on considère comme autiste. Et c'est vrai que c'est, les livres, ils commencent comme ça. Et pour moi, c'est assez impressionné pour comment elle peut c'est déjà se rappeler de ses premiers souvenirs, des rêves. Et aussi cette histoire des petits taches blancs qui la traversent et tout ça, ça m'avait beaucoup touché. Et voilà.
Ça nous permet de rentrer dans un univers nouveau. Ouais.
Ouais, puis c'est marrant parce que ça évoque la communication verbale et un des premiers trucs que tu as dit c'est ça me parle et tout, enfin ce livre il me parle, du coup c'est drôle.
Ouais, c'est clair, tout à fait. Alors, je vais continuer avec un autre petit texte. Et c'est plus je prenais conscience du monde autour de moi, plus j'en avais peur. Les gens étaient mes ennemis et leur arme consistait à chercher à m'atteindre. Seuls mes grands-parents, mon père et ma tante Linda faisaient exception à la règle. Je me rappelle encore l'odeur de ma grand-mère. Elle portait des colliers autour des cous. Elle était douce et ridée. Elle portait des vêtements tricotés à travers lesquels je pouvais passer les doigts. Elle avait un bois enjoué et voilé. Elle sentait les camphres. Cela m'incitait à ramasser les boules de camphre que j'ai trouvées dans les rayons des supermarchés. Et voilà, j'ai choisi cette deuxième partie parce que j'ai trouvé que c'était intéressant aussi voir que cette Donna Williams, elle était capable aussi d'accepter quelques personnes. Et à moi, c'est vrai que ça m'a parlé parce que j'ai toujours été très attaché à ma grand-mère. Alors voilà, cette idée un peu de pouvoir te sentir en confiance avec une personne ridée, avec une voix voilée, mais voilà, ça m'a parlé, c'était ultra mignon.
Et puis d'un côté, elle accentue le côté où elle ne veut pas accéder aux attentes des gens. Et là, elle s'autorise aussi à avoir des relations avec certaines personnes et à interagir. Donc il y a un choix chez l'autiste.
C'est clair. Et bon, allez, je vais continuer. Tant qu'à faire, non ? Ce qu'on est là, c'est pour que je vous lise des trucs. Bon, maintenant, j'ai choisi une toute petite poésie qu'elle a écrite. Parce que bon, dans ce bouquin, il y a pas mal de poésies qu'elle a fait. Et voilà, ça, c'est un tout petit, il y a que 6 lignes. Je vois dans le miroir cette fille qui me regarde. Je vois bien qu'elle pense que je suis folle de croire que je suis libre. Mais je vois aussi dans ses yeux qu'elle essaye de comprendre que je n'aime même pas. Moi qui essaye seulement de trouver le chemin qui me conduira à moi-même. Et voilà, la petite poésie. Et allez, voilà, c'est bientôt, je vais vous lire encore. Avant-dernière, celui-là, c'est par rapport au langage, c'est que toi, tu disais des langages verbal ou pas verbal et tout ça. Alors ici, ça parle de la pensée symbolique, parce que normalement, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'aux autistes, on dit qu'ils sont pas capables de développer une pensée symbolique, surtout à travers le langage, parce que c'est vrai que nous, on assimile le langage verbal avec la pensée symbolique. Alors voilà, elle l'explique comme ça. Dire que je ne pouvais pas accéder à la pensée symbolique ne serait pas exact. Disons plutôt que les gens ne comprenaient pas le symbolisme de mes faits et gestes et que je n'étais pas en mesure de leur fournir la clé d'interprétation. J'ai élaboré à mon propre usage tout un langage original. Tout ce que je faisais, depuis les gestes de tenir deux doigts collés ensemble jusqu'à celui de recroqueviller mes orteils, avait un sens précis, visant généralement à m'assurer que j'ai gardé bien le contrôle de ma personne et empêcher quiconque de m'atteindre, ou que je fusse. Parfois, j'ai tenté d'expliquer par tel geste ou telle mimique ce que je ressentais, mais le procédé était si subtil et si alambiqué que personne n'y prêtait attention, au moins d'y avoir la dernière excentricité de cette folle de Donna.
L'excentricité.
Et alors,
est-ce que tu veux nous présenter le morceau qui suit ?
Non, je vais encore te lire les dernières parce que ça prend pas beaucoup.
Fais-nous plaisir.
Voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus ça parle de la prison, tu vas voir. Et après, je vais présenter le morceau de Vomito, ne vous inquiétez pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas ma mère qui m'a inculqué la peur de la prison. Je le répète, c'était mon état d'esprit, pas les siens, qui donnait une connotation monstrueuse au mot. Pour moi, la maison d'enfant signifiait la prison. J'étais terrorisé à l'idée qu'on pût abuser d'un pouvoir en exerçant des pressions sur moi. Ce n'était pas tant le fait d'être physiquement prisonnière, quand bien même m'aurait-on enchaîné, qui me faisait peur. J'aurais volontiers abandonné mon corps à mes persécuteurs, avec ma bénédiction imprime. Ce qui me terrifiait, c'était qu'un pou ont pu me contraindre à faire ce que je ne voulais pas, à m'empêcher d'être moi-même et me refuser la liberté de me réfugier dans ma propre prison. Certes, bien solitaire, mais tellement sûr. Ouais. Voilà, alors voilà, je trouve que c'est fort. Et comme ça que toi tu disais hello, vous avez présenté un morceau de Vomito. Vomito, c'est un groupe du Pays Basque, fin des années 80, que je kiffe bien. Et le morceau s'appelle Las Montañas de la Locura, dans les montagnes de la folie.
Allez hop, c'est parti. En voyage.
Ah.
Locura!
Et oui, des montagnes de la folie. Nous allons donc passer au mouvement pour la neurodiversité. Qu'est-ce donc? Alors, je suis tombée sur un article là-dessus en faisant une recherche, en tapant « autiste et fier » sur les moteurs de recherche. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais voilà. Et du coup, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le Neurodiversity Movement. Donc, c'est un mouvement de personnes qui sont basées aux États-Unis et qui, en fait, militent pour ce qu'ils appellent, entre guillemets, la neurodiversité. Alors, d'où ça vient? C'est une affiche américaine qui a déclenché des réactions assez enflammées en 2009. Et on pouvait lire sur cette affiche, alors rigolez pas avec mon accent anglais, « If one in 150 American children were kidnapped, we'll have a national emergency. We do autism. » Et ça veut dire « Si un enfant sur 150 était kidnappé, nous aurions une urgence nationale. Nous en avons une, l'autisme. » Et il y avait un dessin donc avec ce texte qui représentait des visages d'enfants piégés dans des espèces de pièces de puzzle. Et y a, donc, c'était créé par l'association Autism York, qui a reçu du coup beaucoup de plaintes, qui disait que c'était une représentation dégradante, stigmatisante et déshumanisante. Alors, en effet, pour plein de gens, la représentation commune de l'autiste, c'est une sorte d'être qui serait un peu à part, un peu dans son monde. Selon l'expression de Bruno Bethlehem, une sorte de forteresse vide, entre guillemets, quoi. Donc Bruno Bethlehem, c'est un psychanalyste américain, voilà, enfin, qui a beaucoup travaillé sur l'autisme, si vous voulez faire des recherches dessus. Voilà, du coup, le concept de neurodiversité défendu par ces militants autistes, ça pourrait se résumer à l'idée que les développements, entre guillemets, atypiques, comme l'autisme, la dyslexie, le syndrome de la Tourette, le trouble du déficit de l'attention, etc., serait à considérer comme une partie intégrante de la diversité humaine. Et que, du coup, la société devrait s'adapter à ces différences au lieu de les taxer de, entre guillemets, pathologie, quoi. Du coup, ce mouvement est majoritairement composé d'individus qui ont des difficultés à se socialiser, à communiquer de manière standard. Donc, quand je dis de manière standard, c'est-à-dire principalement par la parole. Et c'est surtout développé sur Internet, donc sous forme de groupes de discussion en ligne, de blogs ou de choses comme ça. Et il y a énormément de thèmes abordés, comme la discrimination, les traitements abusifs ou la représentation donnée par les médias. Alors, quelles sont donc les revendications de ce mouvement? Eh bien, les personnes qui militent donc pour la neurodiversité veulent déjà que les médias cessent de les dépeindre comme des, entre guillemets, tragédies, enfin des cas irrécupérables ou des choses comme ça. Ou des êtres qui seraient retenus en otage par une espèce de maladie terrifiante. Au contraire, ils pensent que leur condition, c'est l'expression d'un mode de pensée et d'un type d'identité fondamentalement différente de ceux des gens dits normaux. Et les gens dits normaux, ils les nomment les neurotypiques. Du coup, c'est assez drôle. Et ils exigent l'arrêt de thérapie qui ont pour but de les normaliser. Et ils réclament également le droit de laisser libre cours à leur tic, idiosyncrasie ou lubie. Les idiosyncrasies, j'ai même du mal à le dire, c'est tout ce qui est un peu comportement stéréotypé, tout ça, comme les balancements ou des choses comme ça. Et ils militent pour une éducation adaptée également. Et en général, ils souhaitent le respect des droits de l'homme, des personnes, entre guillemets, enfin entre parenthèses, neurologiquement, mais bon, j'aime pas trop ce mot, des personnes handicapées et qui sont trop souvent soit à la rue, soit sujettes à des thérapies assez violentes à base d'électrochocs ou de médication forcée. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément des personnes autistes qui seraient les mieux adaptées, entre guillemets, en société, comme celles ou ceux qui savent parler. Par exemple, il y a un des militants qui s'appelle Jim Sinclair, qui n'a pas parlé avant l'âge de 12 ans et qui donne maintenant des conférences dans le monde entier. Et une militante également qui s'appelle Amanda Beggs, qui était considérée comme étant, entre guillemets, de bas niveau et sévèrement handicapée, qui a besoin d'une assistante régulière. Et par exemple, sa faculté de parler, sa compréhension du langage, ses facultés d'expression, c'est hyper variable. Et elle s'exprime généralement par le biais d'un ordinateur, enfin j'en reparlerai à la fin. Elle se déplace en fauteuil roulant parce qu'elle a du mal à garder son équilibre, etc. Donc, qu'en est-il pour ces personnes militantes du concept de cure? C'est un mouvement qui rejette en fait ce concept, quoi, l'idée d'une quelconque guérison possible à l'autisme. Et quand le débat est abordé, c'est vrai que souvent il y a l'image un peu cliché de l'enfant autiste qui parle pas, qui hurlent, qui se tapent la tête contre les murs ou des choses comme ça. Et les défenseurs de la neurodiversité ne nient pas cette importance en fait, d'apprendre aux enfants à, entre guillemets, communiquer. Et il y a notamment Harry Nieman, qui est un des militants, qui dit « Être anti-cure ne veut pas dire être anti-progrès », donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, donc il ne rejette pas cette idée en fait, qu'il faut apprendre aux autistes à communiquer avec les personnes non-autistes, mais il demande à ce que ce concept lui-même de communication soit repensé en fait, dans son ensemble. Et beaucoup critiquent l'idée que la communication doit être orale en fait, pour être considérée comme légitime. Et certains des comportements autistiques peuvent être déjà une tentative de communiquer qui n'est pas forcément orale. Donc voilà, et je me perds un peu dans mes citations. Voilà, il y a Jim Sinclair en fait, qui est un militant donc, dont j'ai déjà parlé précédemment, pro-neurodiversité, qui dit aux parents qui sont un peu paniqués par l'autisme de leur enfant, il a une chouette citation qui dit « Il faut faire plus d'efforts pour communiquer avec quelqu'un dont la langue maternelle n'est pas la même que la vôtre, et l'autisme est ancré plus profondément que la langue et la culture. Les personnes autistes sont des entre guillemets, « étrangers » dans quelque société que ce soit. Vous allez devoir abandonner vos hypothèses sur le partage des significations. Vous allez devoir apprendre à revenir à des niveaux bien plus élémentaires que vous auriez probablement jamais imaginé auparavant, à traduire et à vous assurer que vos traductions soient bien comprises. Vous allez devoir abandonner la certitude que vous savez prendre soin de votre enfant, le laisser vous apprendre un peu de son langage et vous guider vers son monde à lui. » Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce concept en fait, d'échange et d'essayer de remettre en cause les manières dont on communique. Et les militants parlent aussi beaucoup de ce truc de pouvoir communiquer de manière... alternative d'une certaine manière, donc par exemple par le biais d'un ordinateur, comme Amanda Banks, et j'ai envie de vous parler d'une vidéo en fait qui était évoquée dans cet article que je suis allée regarder, qui peut se trouver du coup sur YouTube. Alors il faut chercher Amanda Banks, donc c'est écrit Amanda comme le prénom et Banks B-A-2-G-S, et la vidéo elle s'appelle In My Language, et du coup ça se trouve facilement sur YouTube. Et alors en fait dans la vidéo qui dure pas très longtemps, on la voit un long moment du coup interagir avec des éléments. Enfin, elle fait, par exemple, elle se balance un moment, après elle touche de l'eau ou des choses comme ça. Et après, il y a la deuxième partie où en fait elle explique un peu du coup par le biais d'un ordinateur. Donc c'est pas sa voix, c'est toute une voix formatisée. Elle explique un peu sa vision des choses et c'est hyper intéressant. Et il y a une citation donc, que j'ai envie de vous lire. Je trouve très intéressant qu'on perçoive le fait de ne pas parvenir à apprendre votre langage comme un déficit, mais qu'il semble naturel de ne pas réussir à apprendre le mien, les gens comme moi étant décrits comme mystérieux et déroutants. Cela, au lieu d'admettre que ce sont les autres qui sont déroutés. Donc voilà, j'avais envie de conclure sur cette citation, en fait, que je trouve assez parlante, et je le dis volontairement comme ça, voilà, sur ce truc de communication, et qu'en fait, ça m'a aussi beaucoup pensé à ce que revendiquent les personnes sourdes, en fait, par rapport au handicap, que en fait ce serait pas nous, enfin c'est nous qui sommes handicapés parce qu'on parle pas le langage des sourds et enfin qu'on signe pas, et du coup c'est un peu pareil, moi ça m'a évoqué ça, en fait c'est pas forcément les autistes qui sont handicapés, c'est juste nous qui avons pas les moyens ou qui nous donnons pas les moyens d'interagir avec ces personnes quoi.
Du coup ça donne une belle illustration du mouvement de soins dans nos sociétés où c'est l'État qui pense le soin, alors que là il dit guider vers son monde à lui. Du côté ouais. C'est la parole du sujet et pas ceux qui décident pour lui. Entre autres, il est chouette.
Ouais, l'État et les chercheurs, quoi. Moi, je suis tombée du coup en écho. C'est une chercheuse canadienne qui s'appelle Michelle Dawson, qui est autiste et qui fait de la recherche sur l'autisme et qui, elle aussi, critique à fond la notion de soins curatifs et qui démonte l'approche scientifique de l'autisme en disant que ça part de la certitude qu'il n'y a qu'une manière d'apprendre, de percevoir, d'interagir et d'être intelligent, que l'autisme, ce serait un espèce de fléau dévastateur. Elle dénonce aussi le fait que dans tous les congrès sur l'autisme, il n'y a aucun autiste en tribune, et elle dit même qu'elle s'est trouvée dans cette situation où on lui a interdit l'accès à la tribune. Donc un peu, dépossession de l'enjeu, quoi, parce que sa parole dérange, et qu'elle en a ras-le-bol du sensationnalisme qu'on fait autour des individus, de la condescendance, des fausses représentations. Et elle cite notamment, juste rapidement, un Canadien qui est promoteur de ce qu'il appelle l'ICI, donc intervention comportementale intensive, Et elle cite ses propos, c'est un peu à tomber des nues. Lui dit que tout dans les approches qu'il a avec les autistes, il n'a jamais rencontré aucune humanité reconnaissable chez ces autistes. Et que l'enjeu de ces interventions comportementales, c'est de créer une personne là où il n'en existe aucune.
Ah, c'est violent.
Ouais, c'est vraiment hyper violent. C'est quoi, on retrouve les propos eugénistes. Quoi, bah plus tard, moi, j'aborderai un peu le côté voilà scientifique de la recherche. Mais ouais, voilà, faut bien faire le pendant entre tous ces propos qu'on entend de gens à qui on fait subir cette grille de lecture et les soins associés, quoi.
Même pire que l'eugénisme, parce que l'eugénisme, il considérait que cette personne, c'était des êtres humains, peut-être pas au même niveau que les autres, mais en tout cas des êtres humains. Mais dire qu'ils ne sont pas des humains, ouais. C'est vraiment affreux, c'est incroyable. Hein.
Ouais. Mmh. Bon, allez, pour se détendre, une petite surprise.
Qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant m'a fréquenté. Où la FJ est passé trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous.
Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tout s'est pas sommé sympa, qu'il reste encore une chance. Sinon nous rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Je fais partie des b-boys, c'est un style qu'on redoute. À la radio, à la télé, si jamais tu nous écoutes. Je veux que tu penses à nous et que tu dises pas pour tous les gens qui nous aiment pas. Qu'on poursuivra notre route, oui c'est du rap français. Plus fort que jamais, apportant avec lui le fond de tous ces secrets. C'est que t'es pas branché.
Ladies and gentlemen,
DJ Dedicated.
Vous êtes fou.
Oh oui.
Parfait. Et qui l'accompagne?
Benny B.
Mais vous êtes fou.
Oh oui.
Mais vous êtes fou.
Oh oui.
Mais vous êtes fou.
Il parle un peu beaucoup de lui, on va peut-être donner la parole à d'autres.
Oui.
Oui.
Yes, we are.
Du coup, on va enchaîner avec Fernand Denis. Fernand Denis qui a pas mal tenté d'expérience, qui a eu pas mal d'opportunités pour faire des choses. Il s'est retrouvé, par exemple, dans l'hôpital psychiatrique d'Armentières pendant la guerre. Donc, pendant la guerre, beaucoup de soignants étaient partis. Et du coup, un espace pour expérimenter de nouvelles choses. Ensuite, il s'est retrouvé à la tête d'un institut pour étiqueter délinquants, où il a écrit un bouquin qui s'appelle « Graines de crapule ». Si vous avez l'occasion de le lire, c'est de la poésie cynique sur ce qu'est le rapport entre éducateur et délinquant. Ensuite, en 48, il commence la Grande Cordée. En fait, il a un réseau de lieux, d'auberges de jeunesse qui accueillent en fait, des gens qui travaillent. Il travaille, il propose un savoir-faire dans un échange et une expérimentation, entre guillemets. Et ensuite, Deligny finit son parcours à Monoblet, dans un petit bled, un hameau qui s'appelle Serré, où en fait il accueille, il vit avec ce que la psychiatrie étiquette aujourd'hui comme des autistes. Et il y aura un film qui est fait en 75 qui s'appelle « Ce gamin-là ». Qui est réalisé par Renaud Victor et qui a mis un peu en relief Jeanne-Marie, qui est un des jeunes et après moins jeunes qui a vécu sur ce lieu pendant plusieurs années.
Du coup, pourquoi Deligny ? Parce qu'il a un regard un peu particulier sur ce qu'était l'autisme. Alors, il faut le resituer dans le contexte de l'époque, on est très psychanalytique, mais il a quand même un regard bien critique de par son parcours. Du coup, juste, j'ai dégoté une petite perle d'un docteur à la con qui définit ce que c'est que l'autisme. L'autisme, ou plus généralement les troubles du spectre autistique, est un trouble du développement humain caractérisé par une interaction sociale et une communication anormale, avec des comportements restreints et répétitifs. Voilà, ça met en relief beaucoup de qualités chez l'autisme. J'ai beaucoup aimé comme entrée en matière. Du coup, ouais, tout à l'heure, on avait les extraits de Donnell Williams sur ces étiquetés autistes, quel contact ils ont. Alors, il y a certaines paroles qui vont du côté d'une violence à ce qu'on interagisse avec eux, qu'on tente une intention à leur égard. Du coup, on s'aperçoit souvent dans le milieu soignant, alors je mets des guillemets, dans le milieu institutionnel, qu'il y a des grosses gaffes intentionnelles du côté de « on va faire des cadeaux » ou « j'ai le souvenir d'une jeune qui avait toujours des pluches coincées sous les bras. Sauf qu'à Noël, une des dames a eu la très bonne idée de lui offrir des pluches. Et ça a été l'enfer pour elle pendant un mois et demi parce qu'elle avait tellement de pluches que ça tenait plus sous les bras. Et c'était très très angoissant de voir les pluches tomber à longueur de temps. Voilà, une petite illustration de ce que la bonne intention du soin peut amener à faire. Et puis, du coup, il y a... Pardon, je me suis un petit peu perdue dans mes pages. Oui, voilà, comment finalement on refuse un lieu où on ne s'adresserait pas à un autre, où on serait pour soi, sans un « je suis ». On y reviendra. Du coup, deux petites questions aussi sur l'actualité, parce qu'on voit bien avec le DSM-4 et le DSM-5 que de plus en plus d'autistes sont diagnostiqués, parce qu'il y a de plus en plus de critères dans ces petits manuels qui amènent à déterminer un sujet autiste, et il y a de plus en plus de campagnes publicitaires, j'appellerais ça comme ça, en tout cas du soin, sur comment reconnaître l'autisme. Beaucoup de médecins reçoivent ces manuels. Une autre petite question aussi, on parle beaucoup du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger serait le côté hyper intelligent de l'autiste, et on s'est un peu interrogé avant l'émission sur finalement on créerait un homme très intelligent du côté de ce qu'on appelle intelligence instrumentale, du côté de l'effectif, et du coup on créerait peut-être un futur homme machine qui ne saurait pas se prendre la tête avec les affects qui sont compliqués chez l'humain. On parlait de lignée d'ingénieurs.
Oui, voilà, parce qu'ils se sont aperçus. Donc, en tout cas, avec leurs critères, ils en arrivent à la conclusion que les autistes de haut niveau sont particulièrement attirés par les professions où il y a peu d'interaction avec l'autre. Et donc, comme ils arrivent à trouver des gènes qui correspondent à ces autismes de haut niveau, du coup, ça fait des familles d'ingénieurs et de mathématiciens, tous plus autistes les uns que les autres, mais performants.
Performants, la société va être contente. Du coup, pourquoi Deligny ? Deligny, il a quand même tout un axe de sa réflexion autour de l'analyse de ce que c'est qu'une institution. Et finalement, en arrière-fond, la question de l'autisme, elle pose surtout la question du conflit entre ce que pourrait être une expression de la marginalité et de l'exclusion vis-à-vis du contexte institutionnel. Dans notre société psychiatrique, on a la logique de la contenance vers l'intérieur. Si on lit Foucault, on voit bien qu'il y a eu des époques où on a renfermé les fous et des époques où on les a fait ressortir. Et là, on est vraiment dans une logique de la prison, de l'enfermement. On en rejoint la logique de la chambre d'isolement qui contient le soin, entre guillemets. Et donc, on rentre vraiment dans une logique du conflit, puisqu'on contraint quelqu'un à une logique qui n'est pas la sienne, parce que Deligny, il expose justement ça, c'est-à-dire l'autisme, c'est la logique de l'infini, c'est vraiment la logique de l'extérieur. Il propose, par exemple, on y reviendra après, donc, déjà, Deligny, il a une lecture politique de tout ça, parce qu'il a toujours travailler un écrit à partir de ce qu'il appelait ses surgents de pratique. C'est-à-dire tout ce qu'il expérimente en pratique, après il essaye de le penser. Il n'est pas dans l'édification d'une théorie. Et ensuite, c'est quand même une analyse politique d'essayer de penser ce que ces êtres sans parole, alors il y a d'autres manières de s'exprimer, ont de profond dans une nature humaine. C'est une autre façon d'exprimer un hors assimilation sociale, d'une existence sociale que nos démocraties nous proposent. Du coup, Deligny, il a proposé vraiment un vécu autrement. Il a essayé de mettre en relief que c'est pas parce qu'on parle pas, on le disait tout à l'heure, que on n'est pas désigné comme sujet et qu'on ne peut pas être dans l'être. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Un être humain, quoi.
Un être humain. En tout cas, il repère que dans nos sociétés, on est qualifié par nos pratiques, par nos faire. Et que l'autiste, il est lu dans un agir en tant que tel, à l'infini. C'est-à-dire à l'infinitif. On ne conjugue pas je fais, je me coiffe, je me couche, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Sauf que certains ont émis des critiques vis-à-vis de Deligny. Deligny, il a pu de toute façon justifier qu'il n'était pas dans l'idée d'une guérison ou d'un progrès. Il avance ça tout simplement en disant que déjà, ben, il proposait un lieu où on vivait à côté des autistes, où on ne leur portait pas forcément une attention, on n'était pas là pour eux, pas totalement. Et que vivre hors la contrainte institutionnelle, c'est-à-dire que dans le lieu de Serré, dans ce hameau de Monoblette, c'était vraiment des espaces ouverts. C'est un lieu de vie pour se nourrir, s'abriter, etc. Mais il n'y a pas d'architecture institutionnelle comme on trouve dans un hôpital. Et c'était, y avait de la place, quoi, hein. Ils avaient quelques bâtiments et il y avait du terrain autour. Donc déjà, ils disaient tout bêtement qu'ils proposaient à ces gens-là de vivre hors d'une contrainte institutionnelle et que donc ça n'a jamais fait de mal à personne de sortir un peu des institutions, de toute façon. Que pour lui, s'il y avait une forme de normalisation, eh ben on n'était pas foncièrement dans l'autisme. Pour lui, il est assez radical dans sa vision. Et ensuite, refuser le droit à l'autiste de ne pas évoluer vers une normalisation, c'est peut-être clairement faire apparaître que c'est l'institution qui veut guérir et qui ne supporte pas de ne pas pouvoir guérir. Ensuite, il a observé quelque chose d'assez chouette. Il appelle ça les lignes d'air. En fait, il a observé des tracés qui pouvaient faire fonction de... On a tous apparemment, mais plus repérable en termes de communication chez l'autiste, on a tous des lignes, des trajets de vie. Il appelle ça des lignes d'air. Et en fait, c'est l'ensemble des réalités que nous, on ne veut pas voir parce qu'on n'a pas le temps et on nous a enfermés dans d'autres pensées. Mais par exemple... comment dire ? Et par exemple, il décrit une interaction entre Jeanne-Marie et un cours d'eau où l'observation, elle n'est pas simplement factuelle, il y a une communication avec l'eau. Avec ses mains et la façon dont il interagit avec l'eau, il y a un langage, par exemple. Et donc, Jeanne-Marie, il s'occupe de telle pierre, il s'occupe de telle plante, il s'occupe... Et tous les jours, il repère que finalement, d'une manière ou d'une autre, il va aller interagir avec telle partie de la maison. Pourquoi Deligny aussi ? Deligny, parce qu'il propose quand même que finalement l'autiste aujourd'hui se retrouve l'enjeu d'une guerre à propos de la définition de ce que serait que l'humain, de ce que serait que le vivable pour l'humain. Et donc maîtriser le vivable, c'est maîtriser la zone possible d'agir des différents êtres humains. Donc comment on réduit aujourd'hui le modèle normotypé de ce que c'est que vivre. Et puis guérir coûte que coûte et ne pas supporter que certains ne soit pas dans les normes attendues. Et c'est vraiment, pour certaines thérapies, on peut le voir, un acharnement à rentrer dans la normalisation. Ça peut être très violent. Et sans mettre une étiquette révolutionnaire, parce que ce serait super facile de faire ça, et ce serait encore une fois parler à la place d'eux, mais il n'empêche que l'autiste est hors société de contrôle. Ça n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas paramétrer certaines choses. Voilà, donc traiter un autiste comme un être défaillant, c'est relativiser complètement ce que peut être une identité en dehors des aliénations qu'on veut lui proposer. Et voilà, parce que par sa seule présence et sans un mot, il dit la contestabilité de toute frontière intérieure et extérieure, et donc de toute institution.
C'est chouette, c'est super chouette les... Tu sais qu'il dit des lignes, c'est trop père. Après, il y a un truc qui m'a un peu... pas choqué, mais que j'y avais jamais pensé en tout cas. C'est qu'on pourrait avoir une communication avec des... Moi, avec les... Pour moi, la communication, c'est avec l'être humain. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il dit qu'il pouvait communiquer avec la rivière ou avec l'eau. Et c'est vrai que ça, j'y avais jamais pensé. Parce que par exemple, donner à William, ce qu'il dit, c'est qu'il communique avec des êtres humains, mais pas avec les mêmes langages que les autres. Et à ça, j'y pouvais arriver à comprendre. Après, comment établir une communication avec, avec des êtres qui sont pas vivants. Ça, j'y avais jamais pensé. Alors voilà, à réfléchir.
T'es pas assez hippie, David.
Ça doit être ça. Ça doit être ça.
Parce que franchement, quand même, entre, t'as jamais communiqué avec une poule.
Quoi?
Avec une poule.
Une poule. Je peux l'apercevoir.
Peut-être te fait des clins d'œil là.
Mais ouais, moi ça, ouais ça. Pourquoi pas? C'est un être vivant. Mais avec une pierre, par exemple. Mais je vois pas trop comment ça pourrait être la réciprocité, mais peut-être
pas
qu'il faut qu'elle ouvre un chakra ou je sais pas quoi, toi. Hein, mais...
Non, ça passe pas par le cerveau,
elle
ça
te
passe.
Montre ses rondeurs, la pierre.
Ouais,
ouais c'est ça. Ouais.
Du sens au sens, quoi. Sans passer par la grille de lecture et d'analyse du cerveau. Quoi, moi, je comprendrais ça comme ça.
D'accord.
Et peut-être mais sans la logique de la question-réponse, où il y aurait forcément une interaction au sens. On va se répondre dans tous les sens.
Et même sans langage aussi, je sais pas.
Langage, ouais.
Ok.
Bon, alors, on passe à la musique. Là, c'est un morceau un peu au hasard. On va voir ce que ça donne.
Ah.
Tu te plains d'être dans le pétrin. Le train va trop vite. Et la vitesse t'excite. Eh bien calme-toi, retrouve ton sang-froid, demain sera plus belle, et puis la nuit renouvelle, et puis tourne en rond, maintenant prononce bien ton prénom, après tu fais rodondindron, rodondindron, ron, ron, ron. Il faut te dire qu'il y a bien pire. Ton voisin n'est pas tellement mieux. D'ailleurs, personne n'est mieux que Dieu. Et Dieu est mort dans un corps à corps avec l'inexistence. Oh, puis aucune importance. Tiens, tourne en rond. Maintenant, prononce bien ton prénom. Après, tu fais rodondindron, rodondindron, ron, ron, ron. Arrête de tripoter ta personnalité, personne ne t'ordonne, ni même te questionne. Et qu'est-ce que ça peut faire de se taire? Tourne en rond, maintenant prononce bien ton prénom. Après tu fais rodondindron, rodondindron, ron, ron, ron. Je n'ose pas dire que je n'ose pas dire que je n'ose pas dire que je n'ose pas. Tu n'oses pas dire que tu n'oses pas dire que tu n'oses pas dire que tu n'oses pas. Eh bien, sois toi et tais-toi, sois toi et tais-toi, sois toi et tais-toi, tais-toi.
Toi, tais-toi.
Ta voilà. Gueule.
Be yourself.
Mais le bon self, attention. Et voilà, ouais, c'était Dick Hanegarn, c'est un morceau de 74. Ouais, c'est essentiellement pour la fin et pour son ni queue ni tête que je l'ai choisi. Parce que sans queue, sans tête, qu'est-ce qui reste de l'humain? On me demande. Bon, alors, à moi revient le rôle de vous parler de l'autisme et de 2012, sachant que ça a commencé en 2011. C'était une suite de polémiques, grosso modo. Vous avez dû vous en rendre un petit peu compte quand même. Ça a commencé en 2011, c'était au sujet du film Le Mur. C'est un film, je crois que ça s'appelle Sophie Robert ou quelque chose comme ça, qui avait interviewé une série de psychanalystes qui travaillent avec des personnes autistes. Et le montage a été beaucoup critiqué, à tel point que trois psychanalystes ont porté plainte contre elle. Ils étaient présents dans le film et ils ont jugé que leurs propos avaient été montés de telle manière qu'ils étaient ridicules et déformés. Et voilà. Et donc, ce film, au final, a vu sa diffusion être interdite. Il était très porté par, très soutenu par des associations de parents qui sont un peu un moteur de changement pour la prise en charge de l'autisme et ça va pas sans tension, on va dire. Parce que il y a eu cette histoire du mur et en fait à l'Assemblée nationale, alors d'ailleurs je sais pas s'il a été réélu, Il y a un député UMP du Nord qui s'appelle Daniel Fasquelle, qui est président du groupe parlementaire sur l'autisme, qui est un peu aussi cheval de bataille à côté des associations de parents pour défendre les thérapies comportementales contre la psychanalyse. Et donc ce gars-là, en janvier 2012, il a déposé un projet de loi pour tout bonnement interdire l'accompagnement psychanalytique au profit des méthodes cognitivo-comportementales. Ça a fait débat, ta-ta-ta. Entre-temps, l'autisme est devenu grande cause nationale. On lève la tête, on met la main sur le cœur. Grande cause nationale.
Qu'est-ce et ça, que... c'est toi, hein.
Ouais, ouais, c'est ça. Grande cause nationale, ça débouche sur quoi ? Sur toute une série de rencontres diverses et variées. Bon, l'objectif essentiel, c'est d'arriver à mieux comprendre, donc faire l'état des connaissances sur l'autisme, à mieux repérer, c'est-à-dire promouvoir le dépistage précoce et un diagnostic adapté de l'autisme. Je sais plus, aux États-Unis, il y a eu, dans ce contexte-là, avec la recherche comme moteur du diagnostic, il y a eu une inflation de diagnostics d'autisme. Je pense qu'on va avoir à peu près le même phénomène d'ici les années qui viennent. Donc comprendre, repérer, accompagner, avec la question des interventions éducatives, thérapeutiques, le rôle des parents, etc. Et déployer, ils ont des beaux termes, hein, déployer les politiques publiques et le plan autisme qui va arriver l'année prochaine. Donc je vous glisserai deux mots à la fin. Concernant cette grande cause, ça donne quoi concrètement ? Ça donne qu'il y a eu des rencontres parlementaires au printemps, là, cet été, des débats avec la recherche, tout ça. Et là, dans 6 villes, cet automne, dans 6 villes en France, il y a des rencontres avec des spécialistes, comme on aime dire.
Et c'est bientôt ici, non ?
Et c'est demain, à Toulouse, tout à fait.
Ah ouais ?
Demain, bon, ben voilà, ça reprend les termes que j'ai évoqués, les grands axes, là, comprendre, repérer, accompagner, déployer, c'est sur toute la journée, avec des spécialistes. Il y a beaucoup de spécialistes, mine de rien, autour de l'autisme. Hein. Ouais. Il y a un centre ressources autisme en Midi-Pyrénées, voilà, à Toulouse, qui fait tout, de la prise en charge, diagnostic, etc. Beaucoup de structures, d'institutions, d'associations, de thunes, je pense aussi, derrière. Voilà, donc ça c'est demain. Je ne sais pas si on aura accès au compte rendu ou quoi que ce soit. Mais dans la foulée, sur le site ministériel de la grande cause nationale, on a aussi Orange qui nous invite à un colloque. Qui nous invite, mais nous aussi, famille et patients autistes. Et un colloque, bien sûr, il faut que ce soit valorisant. Donc c'est sur la recherche.
C'est quoi Orange ? C'est les trous de téléphonie ?
Tout à fait. Mais... anciennement France Télécom, les mêmes.
Mais ça va pas avec le pavillon bleu ? C'est Orange. Non,
oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, Orange, du coup, mais non, mais ça pue la crapule, hein, parce qu'ils sont, ils parlent donc des études sur les gènes, et donc quand même ils ont modifié génétiquement des souris avec les gènes qu'ils retrouvaient dans les pathologies autistiques.
Bah...
et du coup, pour étudier leur comportement et trouver les traitements adaptés. Ça sent
ils
la
ont
thérapie
essayé de faire des souris autistes.
Tout à fait, tout à
ça
fait.
Ça sent la thérapie génique.
Oh, ouais, l'arnaque.
Voilà, non mais
c'est flippant.
Bon, c'est un petit peu flippant, ouais. Et puis après, il y a toute la recherche. Ils sont à fond IRM, etc. Donc, arriver à voir sur les images cérébrales que le traitement de la voix humaine, la cognition sociale, le traitement des informations sensorielles sont perturbés par rapport à l'humain normal, bien entendu. Bon, je speed, je fonce parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, ça, c'était grande cause nationale. Dans ce même cadre, j'en parle pour juste dire le ridicule de la chose, c'est que 2 avril 2012, on a eu, peut-être vous n'en avez pas aperçu, non pas parce que le PS est passé, mais parce que ça restait discret, l'opération La France Bleue, où on a éclairé 100 bâtiments publics d'une lumière bleue pour montrer qu'il fallait éclairer l'autisme.
Le nucléaire sponsorise l'autisme.
Ouais, c'est, ça.
C'est tout à fait parlant que les bleus, ouais, je vois une lumière bleue dans la place du Capitole et j'y pense direct un autiste, c'est clair. Hein.
C'est ça. Voilà, donc le projet de loi dont je vous avais parlé là pour interdire l'approche psychanalytique s'est tombé à l'eau. Mais par contre, il y a une autre approche qui a du mal à se faire entendre, c'est l'approche qui est défendue par un psychiatre qui s'appelle Pierre Deslions. Je vous en parle quand même parce que on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais on en parle beaucoup. C'est le packing, l'approche du packing. Donc, Deslions, il
c'est
a
quoi
été...
les packing ? Tu peux
voilà,
expliquer rapidement.
Ben ouais. En fait, Deslions, il a été attaqué par des associations de parents. et il a dû défendre sa cause. En fait, sa recherche est acceptée par les instances qu'il faut, mais il a du mal à recruter des personnes pour faire sa recherche concernant l'efficacité du packing, pour qui, comment, etc. Et le packing, le principe qu'il décrit lui-même, hein, c'est donc que... Donc l'idée générale, c'est d'arriver à rassembler le corps de l'enfant qui manque de contenance. Comment on va faire ça? Le gamin, il garde ses sous-vêtements. On l'enveloppe dans des serviettes trempées dans l'eau à température du robinet, c'est-à-dire autour de 10 degrés, jusqu'au cou. Par-dessus, on met un drap sec et par-dessus, un tissu imperméable. Et encore deux couvertures. Et bref, ça fait choc thermique. Et ce qu'il constate, c'est que ce choc-là, choc thermique dit aussi du coup détente musculaire, et là apparaissent surgissements de sourires et éventuellement de sons et de paroles quand il a accès au langage, échange par le regard. Et bon, ces séances, elles durent trois quarts d'heure, une heure. Voilà. On enveloppe le gamin, on attend ces petits signaux là d'être humain sociabilisé. Et après, on le désenveloppe, on prend le temps d'accompagner vers la sortie, etc.
C'est du tampax thérapeutique.
Ouais, c'est ça. Ou de la momification, ouais, je sais pas. Mais bon, c'est très... quoi, je sais pas quoi en penser. Lui, il défend sa cause quand même en disant que c'est réservé à quelque chose dont on parle pas assez. D'après lui, dans le monde de prise en charge des autistes, c'est que c'est quand il y a des symptômes très lourds. Il décrit quand même des trucs assez trash, genre une petite fille qui a une stéréotypie gestuelle de frapper répétitivement sa cornée avec l'ongle de son index homolatéral.
Homolatéral.
Disons. C'est ça. Et que du coup, ben voilà, pour des automutilations, des trucs assez lourds, lui, il aimerait qu'on lui laisse la possibilité de poursuivre un peu cette étude sur l'efficacité, etc. Et seulement, voilà, ça fait scandale, il y a beaucoup de gens qui gueulent, et voilà.
C'est un peu comme la douche froide, non?
Voilà, c'est ça le problème, la douche froide, les électrochocs et compagnie, quoi. Mais bon, c'est juste pour que vous sachiez ce que c'est que ce packing dont on parle de temps en temps. Je fonce sur mars 2012, publication par la HAS de recommandations de bonnes pratiques relatives à l'autisme. Là aussi, scandale. Pourquoi? Parce que la HAS, dans le courant des associations donc, et des députés, etc., a formulé des critiques relativement fermes vis-à-vis de la psychanalyse, en louant à l'inverse les thérapies cognitivo-comportementales. Cette disqualification n'est pas forcément hyper fondée. Voilà, il y a eu beaucoup de réactions des fédérations de psychanalystes, etc., qui râlent. Parce que voilà, on arrive à la médecine fondée sur les preuves, et forcément la psychanalyse elle passe un peu mal dans ce moule là et dans ce moulin là. Voilà.
Du coup, on retrouve un système qui économiquement est plus facilement paramétrable et diagnosticable en passant peut-être par des thérapies où on sait le nombre de séances prédéterminées à l'avance, etc.
Voilà, ouais. Et qu'il faut pas se leurrer, c'est pas parce que tout est paramétrable que tout est efficace, quoi. Et que y a au final peu d'études qui montrent l'efficacité, et encore, qu'est-ce que ça... Mais bon, s'ils attaquent sur ce terrain, peut-être il faut répondre sur ce terrain, je sais pas.
Moi, je voulais revenir, faire un bémol par rapport à la psychanalyse, parce que c'est vrai qu'on a déjà parler dans des autres émissions des risques qui pouvaient entraîner la psychanalyse aussi. Et dans cette émission, je me suis rendu compte qu'on parle de la psychanalyse comme si c'était un peu les miracles aussi pour les autistes. Pas les miracles, mais la possibilité qu'ils les restent. Alors voilà, ça sera bien aussi de creuser, que je ne l'ai pas fait, voir aussi les risques qu'ils peuvent avoir avec les psychanalystes.
C'est même pas des risques, c'est même plus grave que ça, entre guillemets. C'est que l'histoire de l'approche psychanalytique de l'autisme, c'était de responsabiliser et de culpabiliser les parents, en disant notamment que les mères étaient soit trop distantes, soit culpabilisantes. Et ça explique aussi, du coup, que les familles ont le gros sur la patate vis-à-vis des psychanalyses. Mais bon, il y a des réajustements qui sont faits apparemment, qui sont pas entendus. Bref, c'est beaucoup de batailles, quoi. Beaucoup d'enjeux, beaucoup d'ego aussi, sans doute.
Oui.
Ouais.
L'ego.
Do yourself an eye. Ouais, voilà. Et puis après, bon, dans l'approche comportementale, quand même, c'est sûr, c'est facile pour nous de l'attaquer parce que ça prône la réinsertion sociale, faciliter la régulation émotionnelle de l'individu, faciliter ses capacités d'apprentissage, c'est voilà, le rendre au maximum un individu apte à être un tant soit peu efficace dans la société ou être valide, quoi. Valide, validé aussi par l'autre. Et c'est clair que c'est là où on peut avoir du mal, quoi. Bon, voilà, au
sacré
final.
Sacré boulot, toutes ces...
Ah ouais, bah, il y a aussi le plan autisme, mais bon, ça, ce sera une autre fois. C'est pour début 2013, donc on aura le temps d'en reparler. C'est... Ouais, bon, et c'est vraiment dans la ligne du rapport HAS. Hein. Donc, à fond pour le dépistage précoce. Un truc bien, quand même, bien cracra, c'est que l'idée, c'est de dépister le plus tôt possible, parce que grâce à la plasticité du cerveau au jeune âge, on peut rendre réversibles les tares des fonctions cognitives, des comportements moteurs et des bases du comportement social. Ah, donc c'est aussi
la manipulation.
Ouais ouais, et ça grâce aux stimulations comportementales qui peuvent avoir des effets vraiment délétères et qui sont peu étudiées sur comment ils racontaient quoi. Il y a eu des voilà des réactions qui disaient comment en fait ces approches comportementalistes elles ravivaient d'anciennes stéréotypies et ça donnait des tocs. Les gens ils pétaient les plombs en fait. Et du coup en plus ils se faisaient exclure de leur foyer quoi. De leur institution où ils étaient hébergés, parce que ça devenait ingérable. Donc, bon, bref.
Comment on fait circuler des gens d'institution en institution?
Ouais, voilà. Le grand drame. Bon, comme pour l'entrée, pour la sortie, il n'y a pas de générique. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire des petits cris de bestiole.
Ouais, à la rediffusion, peut-être qu'il va y avoir, avec les
oui,
trucs techniques.
Bien sûr, on aura tout régulé.
On aura triché.
De métard, cognitif et comportemental.
Bon, on ne vous a pas fait la minute autiste. Hein. On s'est dit qu'on allait utiliser la parole.
La stéréotypie, la stéréotypie. Ouais.
Bon, bonne soirée, bande d'autistes.
Ouais. Salut.
Salut. Salut.
Crío cuervos.
Crío cuervos.
Crío cuervos.
Crío cuervos.